qu'il a dû endurer. Nous sommes terrassés, mais non anéantis. Le sens de la nuance. Il semble bien de nos jours que plus nous possédons, moins nous savons nous contenter. On a tous entendu parler de ces enfants à qui les parents offrent un cadeau qui coûte je ne sais combien, et l'enfant joue davantage avec la boîte d'emballage qu'avec le jeu lui-même. Il semble bien que notre génération soit la moins satisfaite dans l'histoire de l'humanité. Et Paul qui ose dire « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve ». Alors ce terme de contentement en grec désigne un état de complétude. Il y a l'idée d'être autosuffisant, de se suffire à soi-même, d'être satisfait, d'avoir assez. De sorte que cette personne n'a pas besoin de l'assistance d'autrui pour pouvoir survivre. C'est comme si Paul disait qu'il a appris à se contenter de ce qu'il a et de ce qu'il est en Christ, au point de ne plus avoir besoin d'autre chose ni de personne. Je vous l'accorde, on est dans la cour des grands. À l'époque où Paul écrivait ces lignes, dans le monde gréco-romain, il y avait la fameuse philosophie stoïcienne. Les stoïciens prônaient cette vertu du contentement en disant que dans la vie, pour faire face à l'adversité, il fallait savoir serrer les dents. Et donc, pour les stoïciens, le contentement était atteint à partir du moment où l'on devenait complètement indifférent à son environnement matériel ou relationnel. Le stoïcisme induisait une sorte de déni de la réalité. Il fallait mettre la tête dans le sable. Épictète enseignait même qu'il fallait devenir indifférent à tout ce qui nous arrivait, à sa propre vie comme à sa propre mort. Si tu laisses tomber ton ordinateur, tu dois dire « tant pis ». Si tu as un gros problème, tu dois dire « je m'en moque ». Tu te fais mal ou tu te blesses, tu dois dire « qu'importe ». À force d'effort, tu seras prêt à mourir et tu pourras dire « tant pis ». Le contentement dont Paul parle n'a rien à voir avec ce stoïcisme. Et je vous invite à suivre avec moi dans ce texte de Philippiens 4. Au fil du texte, nous allons relever 12 pistes concrètes, pratiques. Et là, je pense que Paul nous révèle le secret qu'il a appris. Vous savez, parfois, quand on entend des hommes de Dieu parler de leur victoire, on se dit « oui, mais il n'est pas dans ma situation ». Attendez, quand Paul écrivait l'épître de Paul aux Philippiens, il n'était pas assis sur son canapé cuir plein de fleurs avec la clim et en train de zapper sur les chaînes du satellite. Non. Il était prisonnier, enchaîné à un soldat romain. Il était en liberté conditionnelle. Il n'avait plus la liberté de ses mouvements. Il avait perdu la liberté de travailler, de prêcher, d'évangéliser. Il était littéralement en mauvaise posture. Et les Philippiens, ayant appris la nouvelle de son incarcération, n'ont pas manqué de lui témoigner d'une façon concrète leur affection. Première piste que Paul nous révèle dans cette pratique de l'art du contentement. Au chapitre 4, donc toujours versets 2 et 3, « Je recommande à Évodie et à Saint-Tich de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre. » Selon le Seigneur, je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te le demande, viens leur en aide. Le premier secret, je suggère, c'est d'accepter de mettre en œuvre tout ce qui dépend de moi pour régler mes conflits ou pour atteindre l'harmonie dans mon rapport à autrui. Alors, on n'a pas de vidéo ni d'enregistrement sonore, et on n'a pas de détails sur le problème qu'il y avait entre Évodie et Saint-Tiche. Entre parenthèses, c'est encourageant de savoir que même dans les équipes apostoliques, c'était pas toujours le club méditerranéen. Et je crois savoir que même au club Med, c'est pas toujours l'ambiance. On ne sait pas donc ce qui s'est produit entre ces deux personnes, ces deux sœurs. Toujours est-il qu'elles étaient dans une impasse. Et Dieu sait si parfois, quand on est dans une impasse relationnelle et qu'on ne peut plus s'en sortir soi-même, on a besoin d'un tiers, de quelqu'un d'extérieur. Les relations personnelles constituent le capital le plus précieux que nous ayons à gérer sur la planète Terre. Dieu sait si lorsque nos relations avec autrui sont satisfaisantes, eh bien, elles procurent les satisfactions les plus gratifiantes de l'existence. Mais Dieu sait également que lorsque ces relations personnelles sont en souffrance, en mal-être, en rupture, Dieu sait si elles induisent les blessures les plus cuisantes de l'existence. À telle enseigne qu'il est permis de se poser la question, qui n'est pas rhétorique, ni philosophique, mais très pratique, est-il possible de prétendre avoir réussi sa vie si on a échoué dans le domaine des relations personnelles? Jésus a bien résumé la loi et les prophètes par le double commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Vivre, c'est aimer. Et on ne peut pas mener une vie satisfaisante si on a des problèmes sérieux de relations non traitées, non résolues. Et face à une telle situation, eh bien, il faut être disposé à mettre en œuvre tous les moyens possibles et imaginables, là où j'ai un certain levier d'action pour trouver une solution satisfaisante. Et cela signifie bien souvent qu'il faut apprendre à renoncer à mon propre droit, à mes avantages, mes privilèges, et mettre plutôt l'accent sur mes devoirs, mes responsabilités et mes obligations. Dans Romains 12, 17, Paul dit « Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que c'est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Autrement dit, Paul dit, le membre du royaume, il doit être pour la paix. Maintenant, tout le monde n'est pas d'accord. Et il y en a qui veulent la guerre. On ne peut pas assumer à leur place. Mais pour ce qui me concerne, je dois être prêt à renoncer à mon droit, à mes avantages, à mes privilèges, et assumer ma part de responsabilité en mettant tout en œuvre pour établir un climat de paix et restaurer une relation brisée. Deuxième piste, deuxième secret pour pratiquer l'art du contentement, décider de trouver ma joie en Dieu seulement. Verset 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Dans la version La Colombe, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Là, dans la semeur, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, il faut savoir frapper à la bonne porte sans se tromper d'adresse. Et trop souvent, on tombe de haut quand on attend des autres ce que le Seigneur seul est en mesure de nous proposer. Si l'on devait faire passer un IRM gratuit et sans rendez-vous à des couples fiancés qui se promettent le meilleur et sans le pire, on trouverait des traces des attentes parfois que seul le Seigneur Jésus serait en mesure de satisfaire. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on trouve de nombreux versets qui célèbrent le bonheur de l'homme qui connaît Dieu, qui l'aime et qui marche dans ses voies. On a parlé des béatitudes hier. On trouve des béatitudes dans l'Apocalypse, mais aussi dans les textes prophétiques et dans les psaumes. Heureux celui qui a le privilège d'être admis dans la présence de Dieu. Psaume 65, verset 4. Celui qui n'a plus une conscience chargée de culpabilité. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Psaume 32, verset 1 et 2. Dieu, la source de notre contentement personnel. Si quelqu'un a soif, dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37 et 38. Bien sûr, la satisfaction ultime et irréversible aura lieu dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, puisque Apocalypse 7, versets 16 et 17 promet qu'ils n'auront plus faim, plus soif, car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dans l'Ancien Testament, il est beaucoup question de conclure une alliance. Et Dieu s'engage par une alliance avec son peuple. Et la formule rituelle qui revient, « Ils seront mon peuple, je serai son Dieu, leur Dieu. » La présence de Dieu, c'est le Graal, on ne peut pas souhaiter mieux, c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et cette présence de Dieu, cet accès à la présence et à la personne de Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut la pratiquer et s'y préparer. 1 Timothée 6, verset 6 nous dit que la véritable foi en Dieu, ou la piété, dans la version Bible à la Colombe, la véritable foi en Dieu est une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Je crois que c'est Mère Teresa qui disait « Vous ne saurez jamais à quel point Jésus est tout pour vous quand il ne vous reste plus que Jésus. » Dieu en Jésus, qui nous donne accès à la personne de Dieu, la source première et ultime de la satisfaction personnelle. Eh bien, celui qui vit dans cette dimension-là est le plus heureux des hommes. Et le prophète Jérémie déjà l'a affirmé dans Jérémie 17, verset 7. « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant. Il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. » Et le contraste est saisissant en Jérémie 17, verset 5. « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. » Troisième secret pour pratiquer l'art du contentement, apprendre à transformer mes problèmes ou mes besoins en sujet de prière. Verset 6, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » Lorsque je me trouve dans une impasse, il y a deux boutons en face de moi. Il y a panique, inquiétude, découragement, baisser les bras, ou il y a prière. Relever la tête, rebondir, résilience. Ce n'est pas naturel, devant un problème, d'avoir le réflexe de prier. Mais c'est la meilleure des thérapies. Et d'un point de vue d'hygiène spirituelle et même mentale, c'est la meilleure façon de se débarrasser de ce qui est toxique et de ce qui pourrait nous empoisonner l'existence. Devant tel ou tel problème, j'en réfère à Dieu. Je m'adresse à Dieu dans la prière. Dieu sait si déjà, sur un plan purement psychologique, savoir mettre des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X, c'est thérapeutique, c'est libérateur. Ça risque pas d'enfoncer davantage la sécurité sociale dans le déficit financier. Dans le psautier, comme on disait hier, on trouve tous les états d'âme. On a tout l'arc-en-ciel des dispositions de cœur de celui qui craint l'Éternel. Et il y a de nombreuses plaintes, de nombreuses expressions par lesquelles le psalmiste parvient à se débarrasser de ce qui est toxique. Il y a pas mal de psaumes qui commencent et qui donnent dans le registre du De Profundis. On se dit, oh là là, au verset 2, il ne va pas voir la fin de la demi-journée, le collègue. La plupart des psaumes qui commencent comme ça se terminent sur une note, ça rebondit, c'est de la résilience, parce que le psalmiste s'est déchargé de ses fardeaux, de ses problèmes, et Dieu lui a donné sa paix, et puis c'est reparti pour un tour. Rares sont les psaumes où, du début jusqu'à la fin, on est dans le registre du De Profundis. La bonne nouvelle, c'est que lorsque je prie, même si le Seigneur ne me délivre pas de l'épreuve qui me fait souffrir, s'il me donne sa paix, mieux vaut avoir l'épreuve avec la paix de Dieu au sein de l'épreuve que de contourner l'épreuve sans expérimenter la présence et la paix de Dieu. Je ne suis pas masochiste en disant cela. Mais donc pour Paul, il y a la prière avec les actions de grâce. C'est intéressant. C'est pas séparé. L'un va avec l'autre. Prière plus action de grâce égale paix de Dieu. Voilà l'équation à retenir ce matin. Mais l'inverse est vrai. Ingratitude plus murmure égale frustration, insatisfaction. C'est réglé comme du papier à musique. Quatrième secret pour pratiquer l'art du contentement, nourrir mes pensées avec ce qui est conforme à la nature divine. Verset 8. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation et de tout ce qui mérite respect et louange. Point besoin d'avoir fait de longues études pour comprendre qu'il y a un rapport évident entre ce que je pense et ce que je vis. Dis-moi de quoi tu nourris tes pensées, je te dirai quel type de vie tu mènes. La psychologie moderne a prouvé l'importance des pensées justes et adaptées et la nécessité de telles pensées pour sortir plus rapidement et en meilleur état de l'épreuve. D'ailleurs, je crois savoir que dans le monde médical, il est avéré qu'un patient qui a un bon moral ou un bon mental a plus de chances de s'en sortir, ou du moins plus rapidement. Comme quoi, le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures ou matérielles, mais de la qualité de ma vie intérieure. L'homme étant le reflet de ses pensées. L'importance de saturer sa pensée, d'imprégner sa pensée de la vérité de la parole de Dieu. On est bombardé par toutes sortes de messages mensongers, erronés. Et on a besoin d'évacuer les toxines de ces pensées erronées qui n'ont rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Et on a besoin d'être renouvelé. C'est un véritable renouvellement. Cinquième secret pour pratiquer l'art du contentement, obéir à la volonté de Dieu que je connais déjà. Verset 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Alors c'est bien connu, on apprend tous par imitation. Et on a besoin d'être boosté, d'être inspiré par des personnes qui incarnent un modèle, des personnes de référence, qui incarnent l'autorité et qui imposent le respect, qui sont crédibles. Et Vous vous rendez compte, Paul pouvait dire, faites ce que, il ne disait pas, faites ce que je vous ai écrit, ce que je vous ai dit, hein, mais ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Suivez mon exemple. Je suis un modèle pour vous. Et vous, c'est ce qu'il dira aux Thessaloniciens, vous allez devenir un modèle pour les autres, dans la mesure où vous imitez des bons modèles. Il ne faut pas se tromper de modèle. Si nous sommes honnêtes, le problème avec la volonté de Dieu, la plupart du temps, ce qui nous pose problème avec la volonté de Dieu, ce n'est pas tant la partie de la volonté de Dieu que nous connaissons que trop, que celle que nous ignorons. Et bien sûr, il est légitime de chercher à discerner, à connaître la volonté de Dieu dans les grandes choses comme dans les choses moins importantes. Mais on a déjà du mal à mettre en pratique ce que l'on sait et ce que l'on a compris pour ne pas avoir besoin de botter en touche ou chercher à élucider des domaines où, dans l'Écriture, il semble bien qu'il y ait un vide théologique. Une des pathologies spirituelles dont nous pouvons souffrir, c'est d'accumuler connaissance sur connaissance. On risque de faire de l'embonpoint spirituel s'il n'y a pas de mise en pratique. Et c'est dramatique, des gens qui connaissent la théorie par cœur, qui peuvent même parler mieux que les prédicateurs. Mais ça reste lettre morte. Et vous avez beau les enseigner davantage, ça devient de l'eau sur les plumes d'un canard. Sixième piste dans l'art de pratiquer le contentement, faire confiance à la souveraineté de Dieu. S'il y a des Arméniens parmi nous, Jésus les aime et nous aussi. Mais faire confiance à la souveraineté de Dieu, ça aide quand même, je pense. Verset 10. Paul dit, « Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'avez pas eu l'occasion de la manifester. » Donc c'est intéressant, verset 10, Paul utilise l'image, une expression tirée de l'horticulture. Dans la version seconde, à la colombe, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. » C'est de la poésie, hein. Ça fait penser au printemps, quand la végétation repart, et que les premières jonquilles ou primevères se mettent à fleurir. Ben, ça fait chaud au cœur, hein? Comme quand, après plusieurs mois de confinement, on retrouve les frères et les sœurs. Croire aux bonnes dispositions de Dieu à mon égard. Et pour Paul, qui était au fin fond de sa prison, il n'était pas victime de circonstances malheureuses, il ne se croyait pas victime d'un hasard aveugle, mais il se croyait être là où Dieu voulait qu'il soit. Alors nous connaissons bien Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. On est un peu fataliste des fois quand on cite ce verset. Mais moi je voudrais mettre l'accent sur, bien sûr que Dieu dans sa souveraineté a les moyens de changer en bien ce qui pourrait, à court terme, être perçu comme étant négatif. La souveraineté de Dieu est telle qu'il peut changer le malheur en bénédiction. Et on a de nombreux exemples. Mais dans Romains 8, 28, moi je voudrais qu'on mette l'accent sur ceux qui aiment Dieu. Dieu fait concourir toutes choses à ceux qu'il aime, ou toutes choses coopèrent ou concourent au bien de ceux qu'il aime. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, je suis en sécurité. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, le Seigneur gère mon dossier. Il ne va pas égarer mon dossier dans la pile, il ne va pas faire d'erreur. Ce qu'il permet, eh bien, il a ses raisons, même si moi je ne comprends pas. Je lui fais confiance. Waouh ! Ben la foi en la souveraineté de Dieu, ça vous évite peut-être un ulcère à l'estomac. Ça peut vous éviter un ulcère à l'estomac. Ou du moins, ça vous évite de l'inquiétude. Et Jésus a beaucoup parlé de l'inquiétude. Enfin, l'observateur de la création, de la nature, Jésus a dit, mais regardez les petits oiseaux du ciel. Hein. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père Céleste les nourrit. Bon, entre parenthèses, on préférait que les petits oiseaux, ils aillent manger les cerises du voisin que dans votre jardin. Mais bon, c'était une autre question. Et moi, j'observe les oiseaux, et j'observe que la plupart ne font pas pitié. Hein. Ils ont de l'embonpoint, hein. Bon pied, bon oeil. Jésus dit, mais regardez comment croissent les petites fleurs des champs. Je vous dis même que Salomon, malgré tout le faste de sa cour, n'en avait pas la moitié du quart. Et la leçon, c'est si Dieu prend soin à ce point de sa création animale, les petits oiseaux, si Dieu prend soin de sa création végétale, les fleurs des champs, à combien plus forte raison ne prendra-t-il pas soin de vous, qui êtes les seuls à avoir été créés en image de Dieu? De quoi fournir un vaccin efficace contre l'inquiétude, qui ne rallonge pas la durée de la vie, mais qui au contraire la raccourcit. La foi en la souveraineté de Dieu est de nature à nous redonner confiance et satisfaction. Parce que Romains 12, 1 et 2 nous le dit, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Vous ne trouverez pas mieux. Et même si l'adversaire est déjà dans le jardin d'Éden, a voulu semer le germe de l'insatisfaction et de la revendication, en donnant à croire à Ève et à Adam que le bien-être que Dieu leur refuse, eh bien lui, il est prêt à le leur donner sur le champ. Il casse les prix, il joue la concurrence, mais on n'a plus la même qualité. La lecture de nos circonstances présentes, présentement négatives, doit se faire avec le recul de la foi et les yeux de la foi. Nous n'avons pas à douter des bonnes dispositions de Dieu à notre égard. Dans 1 Timothée 6, verset 17, Paul dit que Dieu nous donne toutes choses en abondance pour que nous en jouissions. Si souvent on a une vision rétrécie du christianisme, oui, un vrai chrétien, il n'a pas le droit de faire ci, il n'a pas le droit de faire ça. Quand Jésus a prononcé le mot « heureux » dans les Béatitudes, devant cette bande de paysans palestiniens, pour Jésus, être membre du royaume de Dieu, c'est invitation à la joie, au bien-être, à la satisfaction. Ce n'est pas réducteur. C'est vraiment cet état de complétude dont on parlait tout à l'heure, qui fait qu'une fois qu'on se sait membre du royaume et qu'on vit à la hauteur de notre statut, eh bien, on n'a plus besoin de personne d'autre ni de rien d'autre. La foi en la souveraineté de Dieu signifie que nous croyons que Dieu ne laisse rien au hasard et qu'il pourvoit d'une manière ou d'une autre à l'accomplissement de son projet. Même si nous, nous n'en voyons que... J'aime bien cette image, bon, aujourd'hui elle est peut-être plus très d'actualité, mais il fut un temps autrefois, en remontant à la Renaissance, où les jeunes filles brodaient. Les hommes, quand ils voyaient une broderie à l'envers, ils voyaient des bouts de fil de toutes les couleurs dans tous les sens. Et dans leur inculture, ils devaient se dire « Mais à quoi bon tout ça? À quoi ça sert ?» Ah, c'est quand le motif prend forme et qu'il est terminé, qu'on regarde l'endroit, et là, waouh, on voit un motif qui a de quoi à couper le souffle. Si je peux dire, dans notre vie, nous ne voyons que l'envers de ce motif que Dieu est en train de tisser avec des fils de toutes les couleurs. Nous ne voyons pas encore le motif global qui s'en dégage. Mais une fois que nos yeux s'ouvrent, sur la réalité, eh bien, on ne peut dire que merci, Seigneur. Expérimenter Romains 8, 28 constitue le plus grand secret du contentement. Cela nous permet de dire non à la frustration, non à la résignation, non au fatalisme, non au découragement. Et on a de beaux exemples. Je pense à Joseph, à Ruth, qui eut misé un copec sur l'avenir de Mademoiselle Ruth. Dans l'écriture, je parle. Hein. Esther, on pourrait parler de Esther. Mais dès lors que je m'imagine que tout dépend de moi et que je dois me débrouiller tout seul et que si je ne fais rien, rien ne bougera, je suis candidat à la déception, au découragement, à la frustration, voire même à la dépression. Septième secret pour pratiquer l'art du contentement. Entre parenthèses, je vous encourage à prendre des notes. Mais je ne veux pas donner à culpabiliser ceux qui ne prennent pas des notes. Moi, ça m'est arrivé de prendre des notes même quand je prêche, parce que je trouve que parfois je dis des choses intéressantes. Ça m'arrive, et je prends des notes. Ah ouais, ça m'est arrivé. Mais je vous rassure, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez avoir accès au PowerPoint. J'aurais peut-être pas dû vous le dire. Un bon enseignant, il le dit à la fin du cours, mais vous voyez, je fais un peu d'humanitaire ce matin. Donc, septième secret, verset 11, apprendre à me contenter du strict nécessaire. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Alors Paul a appris le secret, et il y a vraiment un apprentissage, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce verbe appartient au langage technique qui était utilisé dans les sectes à mystère. L'idée c'était qu'il fallait passer par une initiation pour rentrer dans un mystère religieux. Les cultes païens à mystère recelaient certains secrets qui n'étaient réservés qu'aux seuls initiés. C'est comme si Paul était en train de dire qu'il avait été initié au secret qui consiste à maîtriser l'art du contentement. Ben oui, Paul, il a des heures de vol hein, et des kilomètres au compteur. C'est pas un nouveau converti. Et la paix de Dieu du verset 7 et le Dieu de la paix du verset 9 sont vraiment son partage. Alors, excusez du peu, mais Paul, quand il écrit cela, humainement parlant, il est plutôt en situation de précarité. Et il fait preuve de cette qualité du contentement personnel. Moi, j'ai été responsable d'OM une bonne douzaine d'années en France. Et je me souviens mes premières expériences avec opération mobilisation. On allait en Belgique ou en Angleterre, et puis quand on arrivait, tout son argent, on le mettait dans une caisse commune. Ce n'était pas une secte, hein, je précise. C'était librement consenti. Et on entendait des messages béton, canon d'hommes de Dieu. À la fin de la semaine, on se demandait si vraiment on avait compris l'évangile. Et puis, à la fin de la semaine, on nous donnait des vieux camions dont personne ne voulait plus, qui marchaient plus par la prière que par l'essence qu'on pouvait mettre dedans. Et puis, on n'avait pas d'argent dans nos poches. Et on allait partir pour 3-4 semaines. À l'époque, on disait de croisade. Vous vous rendez compte ? Non, mais aujourd'hui, ça passerait plus. Mais on partait en croisade, hein. C'était pas à Jérusalem. Alors, de Belgique, ceux qui allaient à Marseille, ben eux, ils avaient beaucoup de cartons de Bible, de Nouveau Testament et de paix avec Dieu. Parce que, vous l'avez compris, on vivait avec l'argent de vente des livres. Alors, ceux qui allaient dans le nord de la France, ils avaient beaucoup moins de cartons de Bible, etc. Mais je peux vous dire que quand vous passez 3-4 semaines dans ce régime-là, vous priez. Nos motivations n'étaient pas toujours très spirituelles quand on priait, Seigneur, donne-nous de vendre des Bibles aujourd'hui. Nous prions pour 10 Bibles qu'on peut se vendre aujourd'hui. Nos motivations, parfois, c'était très terre à terre. Mais je peux vous dire qu'à ma connaissance, personne n'est mort de faim. On a fait des expériences, et parfois on célébrait la Sainte-Seine. Ben, on n'avait pas de jus de raisin, encore moins de vin. On célébrait la Sainte-Seine avec de l'eau. Et je pense que Dieu nous a pardonné. Mais je peux vous dire que soumis à ce régime-là, 45 ans après, il y a des jeunes qui étaient venus pour 3 semaines pendant leur été, qui ont chopé le virus et qui se sont engagés dans l'œuvre de Dieu pour implanter des églises, ou etc. etc. Mais je peux vous dire, quand on passe dans ce genre d'expérience, on apprend la valeur des choses. On apprend à faire la différence entre un besoin légitime et un caprice, ou un désir, ou une lubie, plus ou moins légitime. Et je crois que Paul, c'est un peu de cela dont il parlait. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Pour lui, l'herbe ne semble pas plus verte de l'autre côté de la barrière. Et Paul se refuse à comparer sa situation d'épreuve à une situation de bénédiction que quelqu'un d'autre peut connaître au même moment. Nous vivons dans une culture de revendication de nos droits, nos avantages, nos privilèges. Et le problème, c'est que l'insatisfaction nous amène à être toujours plus exigeants. Dieu me doit la santé, le travail, la richesse, la prospérité, le bonheur. Et si je n'ai pas tout cela, eh bien, je vais me mettre en grève, je vais revendiquer. Et si les autres ne répondent pas à mes aspirations, eh bien, je vais consulter mon avocat. Nos désirs dépassent nos besoins. Et tant que nous n'avons pas appris à faire la différence entre un besoin légitime et un désir coupable, eh bien, nous risquons la déception. Celui qui maîtrise l'art du contentement accepte de vivre avec des désirs insatisfaits et refuse la comparaison à autrui. Le degré de satisfaction ne dépend pas du degré d'abondance matérielle, mais de l'acceptation de la situation dans laquelle je me trouve. Alors, il faut citer le beau proverbe de Proverbe 30, versets 7 à 9, où le sage dit « Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure, éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur qu'en étant rassasié, je ne te renie et ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu. » Proverbe 30, versets 7 à 9. Là, on est dans la cour des grands. Faire preuve de discernement, de lucidité dans l'appréciation de mes besoins légitimes. 8e secret. Refuser aux circonstances le pouvoir de faire de moi leur victime. Verset 12. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Dans la colombe, c'est « j'ai en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et donc dans la semeur, « m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. » Évidemment, tout est relatif. On dit que tous les hommes naissent égaux, seulement il faut l'admettre, il y a quand même des gens qui sont un peu plus égaux que les autres. Moi, je suis allé en Haïti, je suis allé au Congo, RDC, où j'ai rencontré des gens qui mangeaient parfois un repas tous les 2 jours. Ben, je peux vous dire que quand on vient de tel... On revoit un peu notre échelle de valeur, nous occidentaux qui vivons dans un climat d'opulence. Alors je ne dis pas qu'il faut être masochiste et jeûner 3 repas sur 4. Mais en tout cas, Paul a appris à s'accommoder de la situation dans laquelle il se trouve. Et là, on est dans la cour des grands. Nombre de nos... pathologie encore, découle du fait que nous permettons ou nous choisissons de subir le diktat de nos circonstances. Quand je considère que je ne peux pas réagir autrement que la manière dont je réagis, étant donné ma situation. Et d'aucuns iront jusqu'à vous dire, ah non, mais si, quand on connaît l'arrière-plan dont je viens, on est obligé de me donner raison. Et on tombe dans le syndrome de la pitié de soi que l'on dénonçait hier. Et pour Paul, lui, son secret, c'était de refuser aux circonstances le pouvoir de faire de moi leur victime. Bon, moi, je suis comme vous. On préfère qu'il fasse un beau soleil. Remarquez, sauf les prédicateurs, quand ils prêchent, ils préfèrent qu'il pleuve beaucoup dehors. On est d'accord, je veux bien prier qu'à la fin de la prédication, il fasse soleil. Mais, voilà. Dieu est souverain sur toute chose et de toute façon, si le temps dépendait de nous, on n'aurait pas que des amis. Hein, parce que je ne sais pas comment le Seigneur va faire pour mettre d'accord tout le monde, mais enfin, c'est son affaire. Hein, c'est comme les prêts, les postes et les A millénaristes. Voilà, chacun son ministère. Bon, j'ai cité hier cette boutade, si je ne suis pas responsable de la tête que j'ai, je suis responsable de la tête que je fais. Le plus important n'étant pas ce qui m'arrive, mais la manière dont je choisis de réagir aux circonstances dans lesquelles je me trouve. Paul prenait des coups, mais il persistait. Et il, comme j'ai dit au départ, il était nuancé dans sa lecture des circonstances. Et il savait faire la différence entre être désemparé et être désespéré. J'allais dire, il ne jetait pas le bébé avec l'eau du bain. En dépit des circonstances défavorables, Paul savait garder la tête en dehors de l'eau et il refusait que les circonstances ou que les événements lui imposent un diktat. Ce qui fait couler un bateau, ce n'est pas l'eau de mer dans laquelle le bateau flotte, mais c'est l'eau qui parvient à entrer dans le bateau. Ce ne sont pas les circonstances extérieures de la vie sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle ni aucune emprise qui vont nous affecter au point de nous plonger dans le mécontentement, dans la révolte ou dans le découragement. Mais tout est dans la manière dont on choisit de réagir et sur quel bouton nous appuyons. Et là, il y a un beau texte qui est extraordinaire. Habacuc 3, versets 17 et 18. Habacuc 3, 17 et 18. C'est dans un contexte non pas urbain, on n'est pas à Lyon, mais on est en race campagne. Un contexte agricole. Et voilà ce que dit le prophète Habacuc au chapitre 3, versets 17 et 18. « Bien que le figuier ne fleurisse pas et que les vignes ne donnent pas de raisins, bien que l'olivier ne produise rien et que les champs ne fournissent aucune récolte, bien qu'il n'y ait pas de moutons dans les enclos, plus de bœufs dans les étables... » Non mais... Excusez du peu, mais la coupe est plus que pleine, n'en jetez plus. Pourtant, je me réjouirai dans le Seigneur. Malgré tout cela, je choisis de me réjouir dans le Seigneur. Habacuc 3, 17, 18. À mon sens, s'il y a un verset à retenir, c'est celui-là. Habacuc 3, 17, 18. Comme quoi, le contentement résulte d'une volonté délibérée et motivée. Neuvième piste pour pratiquer l'art du contentement, puiser toute ma force en Christ pour faire face à tous mes défis. Verset 13, je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Hier, on a cité ce beau texte de 2 Timothée 2:2, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. J'ai lu l'histoire d'un magnat de la presse américaine, féru d'art moderne. Il avait lu la recension d'une œuvre d'art d'une valeur inestimable. Et sur le champ, il a embauché 4 détectives
qu'il a envoyé sillonner tous les musées de la planète. Et pendant plusieurs mois, ces détectives ont cherché partout ce fameux tableau sur lequel ils n'arrivaient pas à mettre la main. Et au final, ils ont trouvé ce fameux tableau. Il y en a un qui l'a trouvé. Et tenez-vous bien, ce tableau, il était dans un des hangars qui appartenait à ce magnat de la presse. Il en était propriétaire, mais il n'y avait nullement accès parce qu'il était dans la réserve et s'était perdu dans les oubliettes. Et je crains que souvent, nous chrétiens, on ressemble à ce magnat de la presse. Paul va dire aux Colossiens, « Vous avez tout pleinement en Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Notre problème, ce n'est pas un problème de ressources. Les ressources, elles existent. Notre problème, c'est un problème d'appropriation. C'est un problème d'approvisionnement. Nous ne savons pas nous approvisionner comme il convient. Et d'un point de vue théologique, dans les épîtres, Paul n'a de cesse que d'exhorter les chrétiens à vivre à la hauteur de leur statut en Jésus-Christ. Et il leur dit, voilà ce que Dieu vous accorde en Christ. Maintenant, charge à vous de vous approprier ce qui vous revient de droit. Et c'est dramatique quand on tourne en rond, on est complètement à côté, alors que tout près de nous, il y a tout ce qui nous revient de droit en Christ, mais par manque de foi ou incrédulité ou indifférence, on n'en profite pas. C'est bientôt fini. 10. Cherchez l'avancement moral et spirituel de mon prochain. Versets 14 à 17 et 19. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soit porté à votre actif. Alors là, c'est très intéressant concernant la théologie de la libéralité. Paul était en contact avec cette église de Philippe qu'il avait fondée depuis une dizaine d'années. Au début, il avait envoyé un don et puis pendant une dizaine d'années, tchoum, silence radio. Et tout d'un coup, hop là, l'église de Philippe lui envoie un don. Et la première pensée de Paul, « Ah, Seigneur, moi je suis content pour les bien-aimés de Philippe parce que là, ils ont investi dans la banque du ciel. Et ce don qu'ils m'ont fait par amour pour toi, il va être porté à leur crédit. » Non mais vous voyez l'idée? Bien sûr que Paul avait un besoin criant, pressant. Il va y venir. Mais au-delà de la satisfaction de ses besoins personnels, il voit l'intérêt de ses donateurs. Et il dit, ben merci Seigneur, parce que eux, il y a une bénédiction qui leur revient. Bien sûr, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et justement, c'est le 11e point. Tout en recherchant l'avancement moral et spirituel de mon prochain, savoir accepter l'assistance de mon prochain. L'un va avec l'autre. Vous voyez, la nuance et la lucidité sensible de l'apôtre. Verset 18. « J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. » Alors Paul ne crache pas dans la soupe pour autant. Il dit « Merci Seigneur et merci les frères et les sœurs pour le don que vous m'avez fait parvenir par le biais d'Épaphrodite, parce que j'en avais vraiment besoin. Et vraiment, ça me réjouit le cœur et je suis tellement content parce que Dieu a porté ce don à votre crédit. Et puis, ce don, eh bien, il va subvenir à mes besoins du moment tellement pressants. » Vous voyez, la lucidité, encore une fois, le discernement et le regard juste que l'apôtre pose sur... Alors, c'est toute la théologie de les uns les autres, la réciprocité dans nos relations fraternelles. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Je termine, je vous rassure. Là, vous allez être satisfaits. Choisir de rendre grâce jusqu'à ce que je devienne reconnaissant. Je relis le verset 6 qu'on a vu. Paul dit, ne vous mettez en souci pour rien. Ou ne vous inquiétez de rien, dans d'autres versions, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est vraiment... Non, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. C'est le gâteau sous la cerise. Un enfant, en général, dans son immaturité infantile, il ne brille pas toujours par la reconnaissance. Et on a du mal à leur apprendre, à nos enfants, à dire ce petit mot qui peut faire des miracles dans la vie de couple et dans les relations en général. Merci. Nous, nous pensons que nos sentiments doivent être en tête de... Et puis ensuite, c'est le wagon, les sentiments, pardon, c'est la locomotive, et le reste, c'est des wagons. Eh bien, pour Paul, c'est le contraire. La locomotive, c'est ma volonté. Je choisis de rendre grâce jusqu'à ce que je devienne reconnaissant. Il y a d'abord ma volonté, et il y a ensuite mes sentiments. Alors, je sais, certains vont me dire, « Ah oui, mais attendez, frère, là... Vous nous encouragez à être hypocrites. Comment voulez-vous que je rende grâce à Dieu pour ce qui me fait pleurer dans l'immédiat ? Je ne peux pas. C'est bloqué à l'intérieur. Et mes émotions ne sont pas à la même page que ma volonté. Peut-être que ça peut prendre un certain processus. Mais je rappelle Jacques, chapitre 1, verset 2, mes frères et mes sœurs. Considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez traverser, sachant que, et entre parenthèses, nous, quand on parle de l'épreuve, on voit le côté désagréable du processus. L'Écriture met toujours l'accent sur le résultat, le fruit que produit la mise à l'épreuve de notre foi. Je choisis de rendre grâce jusqu'à ce que je devienne reconnaissant. La messe est dite, il n'y a plus qu'à. Et comme je dis toujours, l'enseignement est gratuit. Ce qui coûte cher, c'est la mise en pratique. Bienvenue au club, on est dans le même bateau. Je n'ai pas dit que c'était une galère. Et prions les uns pour les autres. Amen. On va prier en terminant. Seigneur, nous te remercions pour ces choses qui ont été écrites pour notre instruction. Nous prions que tu nous aides à repasser ces choses dans notre cœur. Tu connais nos situations personnelles, tu vois où nous en sommes. Fais-nous grâce. Apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, à nous aimer les uns les autres et à mettre notre amour en action. Et merci parce que nous avons tout pleinement en toi. Jésus nous suffit parfaitement et complètement. C'est écrit dans ta parole, nous le croyons par la foi et nous voulons nous en approprier les vertus. Veuille que ces paroles ne restent pas lettre morte, mais qu'aujourd'hui, demain, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, cela puisse avoir un impact dans notre vie de tous les jours. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres au nom de Jésus. Amen.